La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, joyeux samedi. Et qu'on se le dise, les contes arrivent au pays des contes. Et là, vous devez savoir que nous approchons d'Halloween et j'ai concocté quelques contes pour vous faire frissonner. Et en avant, vers les sorcières. Il était une fois un pêcheur. Et depuis quelque temps, chaque matin qu'il montait sur sa barque était mouillée. Aussi, il voulut savoir ce que ça voulait dire et un soir, il alla se cacher près de sa barque. Et sur le coup de minuit, il vit venir de loin une bande de femmes. Chacune avec une petite lumière. Elles entrèrent dans sa petite barque et il entendit une qui disait « Part pour un, part pour deux, part pour trois, part pour quatre, part pour cinq, part pour six, part pour sept !» Et la barque disparut dans une volute de fumée. Le lendemain matin, il trouva encore sa barque mouillée et cette fois-ci, il savait pourquoi. Le soir même, à la nuit tombante, il alla se cacher dans le fond de la barque et attendit. Au coup de minuit, arrivèrent les sept femmes qui... montèrent dans la barque. Lorsqu'elles y furent toutes entrées, celle qui conduisait la bande dit « Part pour un, part pour deux, part pour trois, part pour quatre, part pour cinq, part pour six, part pour sept !» Et la barque ne bougea pas. « Fille, dit-elle, il y en a une de vous qui est enceinte ?» Et toutes lui dirent que non. « Bon. » Alors elle recommença, part pour un, part pour deux, part pour trois, part pour quatre, part pour cinq, part pour six, part pour sept, part pour huit. Et la barque disparut dans une volute de fumée. Dans un clin d'œil, ils traversèrent la mer. Quand les femmes sautèrent à terre, le pêcheur les suivit. Il les vit entrer dans une maison mal famée. Dans ce voyage, il vit qu'il était sur la terre d'Égypte. Pour pouvoir affirmer ce qu'il avait vu, il coupa une branche de palmier et courut vite se cacher dans la barque. Avant le lever du jour, les sept femmes revinrent et de nouveau, l'une d'elles dit « Part pour un, part pour deux, part pour trois, part pour quatre, part pour cinq, part pour six, part pour sept, part pour huit !» Et la barque disparut comme une fumée. Lorsque le pêcheur raconta à ses voisins que, dans une nuit, il était allé en Égypte et revenu, aucun ne voulait le croire. Alors il leur montra la branche de palmier qu'il avait emportée de ce pays. Le curé du village se plaignait au prône que, lorsque le clerc sonnait la petite clochette pendant l'élévation, il y avait des fidèles qui ne baissait pas la tête. Le pêcheur dit au curé que dans le pays, il y avait sept sorcières. Pour les connaître, il n'y avait qu'à semer du sel devant la porte de l'église. Le dimanche suivant, le curé se tint à la porte de l'église et y mit du sel pilé. À l'évangile, sept femmes arrivèrent. Mais arrivées au seuil, elles s'arrêtèrent subitement. Le curé leur dit d'entrer. elles ne purent pas entrer. Alors on connut les 7 sorcières qu'il y avait dans ce village. Et le coq chanta. Et l'historiette finit là. Chers auditeurs et chères auditrices, nous allons quitter le Languedoc et arriver en Afrique. Voici une histoire venue d'Afrique et un peu adressée spécialement au conteur Jean-Claude César qui la contait si souvent. Une sorte d'hommage. Donc il était une petite fille qui s'appelait Diabundao. C'était une toute petite fille qui habitait un village du Sénégal. Et comme tous les enfants d'Afrique, elle aimait beaucoup les gnoules. Les gnoules, ce sont de toutes petites noix qui viennent de ces grands arbres d'Afrique qu'on appelle les palmiers. Tous les enfants adorent casser les gnoules pour croquer la petite amande qui se trouve dedans. Mais Diabundao en abusait. Elle aimait trop les gnoules. Même la nuit, quand tout le monde dormait, Diabou restait toute seule dans la grande cour de la maison à casser ses gnoules. Même quand tout le village était endormi, on entendait encore Diabundao casser ses gnoules, casser ses gnoules. Une nuit, alors qu'elle était là toute seule à casser ses gnoules, on entendit au loin, très loin dans la brousse, aussitôt, la maman de Diabundao s'est réveillée. « Diabundao, Diabundao, Diabou, dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends ce lion qui rugit ?»« Certainement qu'il vient vers le village. »« Oh, maman, je casse mes gnoules. C'est pas un petit lion qui fera courir Diabundao. »« Diabundao, casse ses gnoules et casse ses gnoules. » Et elle a continué à casser tranquillement ses gnoules. Tous les jours, elle avait dedans d'elle sa grosse pierre toute plate, elle y posait ses gnoules et avec une toute petite pierre, Diabundao cassait. Elle cassait. Et au fur et à mesure, elle se jetait dans la bouche ses petites noix de gnoules qu'elle croquait ensuite. Et on entendit un autre rugissement beaucoup plus fort. Le lion s'était bien approché. Le papa s'est réveillé. « Eh, Diabundao, Diabundao, Diabou, dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends ce lion qui rugit? Personne n'osera sortir pour te sauver. »« Oh, papa, je casse mes gnoules. C'est pas un petit chat malade qui va faire courir Diabundao. »« Diabundao, casse ses gnoules. » Et elle a continué à casser. Coi, coi. Elle croquait, coi, coi, coi. Elle cassait, coi, coi, coi. Elle croquait. Mais à présent, le lion était dans le village. Ses rugissements étaient terrifiants. Plus personne n'osait sortir. Toutes les portes de toutes les maisons étaient bien barricadées. Et le frère de Diabundao dormait dans une autre case, là-bas, au fond de la cour. Et à son tour, il s'est réveillé. « Diaboundao, Diabou, ma petite sœur, Diabou, dépêche-toi d'entrer dans ma chambre. Le lion va sentir que tu es là. Dépêche-toi. Oh, grand frère, je casse mes gnoules. » Et le lion est entré dans la maison et s'est dirigé vers Diaboundao. Diaboundao se lève promptement. Elle jette sa petite pierre et vient à la rencontre du lion. Le lion avale Diaboundao. Ah, mais Diaboundao sort par les fesses du lion. Et c'est elle qui avale le lion. Mais le lion sort par les fesses de Diaboundao et avale de nouveau Diaboundao. Diaboundao ressort par les fesses du lion, avale le lion. Jusqu'à ce qu'elle bouche ses fesses avec du papier. Et le lion est enfermé dans le ventre de Diaboundao. Elle va dormir tranquillement et passe une excellente nuit avec le lion dans son ventre. Le matin, de bonne heure, Diaboundao s'est réveillée. Elle est partie en courant de toutes ses forces. Tout le monde se demandait où elle pouvait s'en aller en courant si vite. Et elle le savait. Elle est arrivée au marché où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Chacun achetait ce qui lui plaisait. Diaboundao s'effrayait un passage au milieu de toutes ces personnes. Elle est venue se mettre au centre du marché. Et elle a crié aussi fort qu'elle a pu. « Ah, vous qui êtes au marché, je peux bien vous faire peur à tous que vous êtes !» Et tout le monde s'est retourné, nous faire peur à nous, une toute petite fille comme toi. Même tes parents n'arriveraient pas à nous faire peur. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire peur. Ah, c'est ce que vous dites? Il n'y a que Dieu qui peut vous faire peur. Est-ce que vous en êtes sûr? Elle a enlevé son papier et le lion est sorti de ses fesses. Et lui-même avait si peur qu'il est très vite allé se cacher dans la forêt. Et toutes les personnes du marché ont eu si peur aussi. Certains ont eu si peur qu'ils ont laissé tout ce qu'ils avaient acheté. D'autres, leurs chaussures, leurs bonnets, leurs mouchoirs. Ils sont partis en courant, courant. Et Diaboundao s'est retrouvée toute seule sur la place du grand marché. Et elle a éclaté de rire avant de retourner calmement chez elle et continuer à casser ses gnoules et croque et craque et croque et croque et craque et croque et croque et croque. Et c'est ainsi que le conte se finit. Le premier qui l'aura respiré ira au paradis. Et maintenant, chères auditrices et chers auditeurs, nous quittons l'Afrique et faisons un grand voyage au pays des Vikings. Du froid, de la mer, des bateaux, des marins. Il était une fois, quelque part, près de Télémarque, où vivaient un pauvre pêcheur et sa femme. Ils ne possédaient que leur chaumière qui menaçait de s'effondrer, ainsi qu'une vieille barque, avec quelques hameçons et quelques mètres de filet rapiécés. Le vieux pêcheur devait batailler longtemps avec la mer pour prendre quelques rares poissons et maintenir la misère sur le seuil. La seule lumière de cette triste existence était leur fils Olav. C'était un enfant solide, toujours heureux, bon et généreux. Il ne peinait jamais personne. De plus, il possédait une vue perçante. À peine observait-il une prairie qu'il trouvait un trèfle à quatre feuilles qui lui rapportait toujours la chance. Il voyait l'invisible. Et lorsqu'il se passait la main droite sur le visage, c'est lui-même qui devenait invisible. C'était un garçon extraordinaire. Un jour, le vieux pêcheur fut emporté au large par une tempête et ne revint pas. Le lendemain, le ressac ne rejeta sur la plage que sa coquille de noix renversée et vide. La veuve pleura sans fin. Olaf l'assura que son père était sur l'île légendaire du Drost, qui émerge mystérieusement de la mer à chaque tempête pour recueillir les naufragés. Et même si c'était vrai, soupira la mère, de quoi allons-nous vivre ? Ne crains rien, maman, je vais m'engager. Sur le port, Olaf trouva une place dans un navire qui embarquait. Grâce à sa bonne humeur et à ses mains habiles, son sérieux, sa gentillesse, il fut vite remarqué par le capitaine. Et bien que novice, Olaf évoluait comme un vieux loup de mer et savait déjà tout faire à bord. Au retour de sa première traversée, tout l'équipage l'aimait. Lorsque le bateau repartit, Olaf décida de rester à terre. Il lui fallait réparer la chaumière de sa mère, la chaumière tombée en ruine, labourer le champ avant l'hiver. Le capitaine insista. Ses camarades se moquèrent. « On n'a jamais vu un marin pousser une charrue !» En vain, il promit qu'il ferait avec eux la prochaine traversée, mais que pour cette fois-ci, il se contenterait de les aider à charger le bateau. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le dimanche, alors que le voilier était prêt à partir, tout l'équipage descendit une dernière fois à terre. Seul, Olaf resta à bord pour surveiller. Il lava le pont, roula la chaîne de l'ancre et, en s'asseyant pour se reposer, manqua de s'endormir. Pour chasser la fatigue, il se passa la main droite sur le visage et, sans y penser, devint invisible. Alors, il entendit il descendit. Des voix sortaient de la cabine du capitaine. Il s'approcha et crut entendre la femme du capitaine et les épouses du second et du pilote. Mais que faisait-elle dans la cabine? Il était pourtant seul à bord. Voilà qui cache quelque magie, pensa Olaf, qui se pencha vers le trou de la serrure. Et que vit-il ? Trois grandes corneilles noires qui parlaient d'une voix humaine. L'une avait la voix de la femme du capitaine, la deuxième, celle de l'épouse du second, et la troisième parlait comme la femme du pilote. « Je crains, mes chères sœurs, que nous ne puissions cacher encore longtemps notre magie à nos maris. » dit la première corneille. Hier, mon époux a trouvé mon livre de magie noire. Bien sûr, j'ai prétendu que je l'avais trouvé sous un banc sur le quai, mais il ne m'a pas cru. Il me regarde souvent avec un air bizarre qui m'effraie. Oh ben moi, mon mari, il me soupçonne aussi depuis qu'il a découvert dans notre lit des plumes noires. Il y a peu, mon mari m'a soutenu, droit dans les yeux, que j'étais une sorcière et que tout cela allait mal finir. Il est revenu à terre à l'improviste et ma surprise, quand j'ai remué une potion magique avec une queue de bœuf.
Il n'y a rien à faire, mes sœurs. Tôt ou tard, ils vont découvrir que nous sommes des sorcières.
Et ils ne feront périr sur le bûcher. C'est pourquoi nous devons, dès maintenant, les faire disparaître.
La deuxième corneille approuva. Et la troisième demanda, et comment les tuerons-nous ?
Chut, taisez-vous. Quelqu'un nous écoute. Elle alla ouvrir la porte prudemment.
Et elle ne vit personne.
Non. Il n'y a pas un qui vive. Poursuivons. Je sais comment nous allons faire disparaître nos marins. Demain, leur vaisseau part pour une longue traversée. Et quand la lune sera pleine, nous nous changerons en trois vagues énormes et nous coulerons le bateau avec tout son équipage.
À cette idée plut beaucoup aux deux autres.
Et toi, ne crains-tu pas qu'ils en réchappent ?
S'inquiéta la deuxième sorcière, la femme du second.
Ils n'auraient qu'une façon de se sauver, et qui serait aussi notre perte. Mais par bonheur, aucun d'eux ne la connaît. Il me semble que je sens la fumée. N'y a-t-il vraiment personne ? Mais oh, calme-toi, nous avons regardé partout, il n'y a pas âme qui vive. Et cette fumée ? Ils ont certainement laissé le feu s'éteindre dans la cuisine. Dis-nous, comment nos maris pourraient être sauvés ? Il leur faudrait embarquer à bord trois tas de bois de bouleau et jeter les bûches de ces trois amas sur chacune des trois vagues. Alors, ils seraient saufs. Mais nous, à ces bûches de bouleau, nous tourturerions l'une après l'autre. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, ce serait notre mort. Mais par bonheur, personne ne le sait.
Et elles s'envolèrent à tire-d'aile. Le lendemain, lorsque l'équipage s'apprêta au départ, le capitaine pria une dernière fois le jeune homme de voyager avec eux. Il lui sembla qu'Olaf hésitait. Mais peut-être avait-il peur des vagues et préférait se cacher dans les jupes de sa mère. Vous savez bien, capitaine, que si j'en suis quitte pour la peur, je ne serai jamais un rat de terre ferme. Et je viendrai avec vous, mais à deux conditions. Si vous ne me les accordez pas, je reste à terre. Écoutez ce blanc-bec qui n'a pas encore de barbe, mais qui pose des conditions. Alors, mon prince, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Rétorqua le capitaine en faisant mine de se fâcher. Ma première condition est que vous achetiez et que vous embarquiez trois stères de bois de bouleau, demanda Olaf. Et la seconde, que vous me passiez le commandement quand la lune sera pleine.
Bah, tu es fou, mon garçon.
Qui a déjà vu le plus jeune de l'équipage commander à bord ? Comme vous voulez, dit Olaf. Mais vous auriez tous intérêt à ce que je vienne avec vous. Si vous ne me donnez pas satisfaction, je reste sur le quai. Et plus jamais il ne sera nécessaire de nettoyer ou de peindre ce magnifique bateau. Le capitaine était un homme sage et plein d'expérience. Il connaissait Olaf et voyait à quel point ce garçon, d'ordinaire rieur, paraissait grave aujourd'hui. On ne parle pas ainsi sans raison. Aussi, il décida de lui accorder ses deux souhaits. Après tout, c'est un bon marin, et il saura peut-être mener le bateau avec sagesse. fit-il remarquer aux autres. « De toute façon, ajouta le pilote, je redresserai la barre s'il nous dirige dans la mauvaise direction. » Dès le lendemain, trois tas de bois de bouleau furent hissés sur le pont et le bateau prit la mer avec la marée. Ils naviguèrent nuit et jour jusqu'à ce que la lune s'arrondisse. Puis vint le moment où Olaf prit le commandement. Depuis le matin, la mer était calme et plate. Le ciel sans nuages, un vrai temps de rêve. Pourtant, Olaf ordonna aux marins d'amener les voiles. « Voilà un étrange capitaine !» s'esclaffa l'équipage. « La mer est d'huile et il fait replier les voiles comme si un orage approchait !»« Ne vous réjouissez pas trop tôt !» dit calmement Olaf, qui attacha lui-même la voile de misaine. À ces mots, un rideau noir voila le soleil. Une soudaine bourrasque se leva. La mer se couvrit d'écume et des vagues effrayantes déferlèrent de tous les côtés. Quand l'une d'elles passa par-dessus bord, les marins comprirent qu'avec sa voilure déployée, le navire aurait certainement coulé. Et Olaf ordonna l'ordre de jeter rapidement dans l'énorme vague tout le premier tas de bois, bûche par bûche, sans toucher au deuxième tas de bois. Les marins, qui ne riaient plus, obéissaient sans dire un mot. Quand la dernière bûche tomba dans l'eau, on entendit un gémissement, comme le dernier râle d'un mourant. Les marins se regardèrent, apeurés. Mais tous étaient sains et saufs, et la mer s'apaisa. « Ah, Dieu merci, Olaf !» soupira le capitaine. « Quand nous serons à quai, je dirai au patron que c'est toi qui as sauvé son navire. »«
Ce n'est rien, » répondit le jeune homme. « Le pire est à venir. »
Il ordonna que tous les barils, tonneaux ou caisses qui se trouvaient sur le pont soient attachés solidement et que les liens de la grande voile soient vérifiés. Alors une vague bien plus violente que la première apparut sur le flanc du vaisseau. Elle enfla et s'abattit droit sur le pont. L'équipage resta muet. D'horreur. Le nouveau capitaine ordonna seulement que l'on jette le second tas de bois dans la vague, bûche par bûche, et sans toucher au troisième tas. Et encore au moment où tombait dans l'eau le dernier morceau de bois de bouleau, un soupir mortel résonna, puis tout se calma.
C'est maintenant que va venir la plus forte vague, annonça le jeune Olaf.
Il commanda que chacun s'accroche fermement à une amarre et que les deux marins les plus robustes s'appuient contre le mât pour le soutenir. À peine étaient-ils à leur place que la mer bouillonna à nouveau. La pénombre s'abattit autour d'eux et une vague gigantesque. Haute comme un phare, déferla avec un bruit de tonnerre sur les pauvres marins. Elle ébranla la coque du navire qui gémit de toutes ses vergues.
« Mon Dieu !» s'écria le pilote cramponné à la barre. « Je n'ai jamais vu un tel enfer sur mer. Nous n'en sortirons jamais vivants. Il serait temps que l'île merveilleuse du Drost émerge à l'horizon et qu'elle nous accueille quand nous ferons naufrage. » Mais l'île restait invisible et personne n'entendit les paroles du pilote, couvertes par les hurlements du vent et les grondements furieux des vagues qui fouettaient implacablement le pont. À cet instant, Olaf sauta vers le tas de bois de bouleau et le jeta vivement, bûche par bûche, dans la mer en furie. Quand la dernière bûche tomba, on entendit encore un long gémissement mortel. Les vagues se calmèrent et les marins virent l'eau autour du navire se teinter de sang. Les marins, émerveillés et ahuris, regardaient cette mer rouge entourer le bateau. Et Olaf leur dit : trois sorcières se sont changées en vagues torrentielles pour couler notre vaisseau. Les bûches de bouleau les ont broyées l'une après l'autre, et c'est leur sang qui rougit ainsi la mer. Désormais, ces magiciennes ne nous menacent plus. » Il raconta précisément ce qu'il avait vu et entendu dans la cabine du capitaine lors de la réunion des trois corneilles. Le capitaine, le second et le pilote furent abattus d'apprendre que leur femme étaient en réalité des sorcières, de mauvaises magiciennes, et que leurs sombres pressentiments ne les avaient pas trompés. Quand ils revinrent au port, les voisins leur apprirent que leurs épouses avaient disparu avant la pleine lune et que personne ne les avait revues depuis. Olaf revint auprès de sa mère, le temps de lui bâtir une nouvelle maison et de semer du blé dans un grand champ qu'il acheta. Puis il reprit la mer. Le vieux capitaine tint sa promesse et raconta sur le port la grande bravoure du jeune marin. Le patron, reconnaissant, lui confia son plus grand navire sur lequel le brave capitaine Olaf sillonne encore aujourd'hui les océans, car jamais il n'a vu l'île fertile du Drost qui, partant de tempête, surgit de la mer pour porter secours aux marins naufragés. Et c'est ainsi que se termine cette histoire de Viking. Venu du nord, des grands froids et des mers aux vagues gigantesques. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir écouté jusqu'ici. Et n'hésitez pas de mettre quelques commentaires sur les podcasts, même si c'est pas en phase. Ça nous fera toujours plaisir à la radio. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.